Radio Kapi.
Il est 15h à Kinshasa, 16h à Butembo, Nord Kivu. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les titres. Célébration ce mercredi 14 juin de la journée mondiale du donneur de sang. Occasion pour le docteur Emmanuel Amissi, responsable du centre de transfusion sanguine à Butembo, de déclarer que donner du sang, c'est le plus beau cadeau qu'un individu puisse donner à son semblable humain. Au Nord Kivu, la société civile du territoire de Niragongo dit avoir enregistré plusieurs exactions de rebelles du M23 RDF contre les populations des groupements Kibumba et Burumba. La société civile demande l'implication du gouvernement congolais pour mettre fin aux souffrances de ces populations innocentes. Notre invité est l'initiateur de l'ONG Plus de couleurs, Yann Mambo, parle du festival Fièrement Ndundu, organisé à l'occasion de la célébration hier mardi de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donner du sang, c'est le plus beau cadeau qu'un individu puisse donner à son semblable humain. Déclaration faite ce mercredi par le docteur Emmanuel Amissi, responsable du centre de transfusion sanguine au sein de la division provinciale de santé antenne de Butembo, au Nord Kivu. C'est à l'occasion de la célébration ce mercredi 14 juin de la Journée mondiale du donneur de sang. D'après lui, le besoin reste énorme au regard de la dégradation de la situation sécuritaire dans la région qui impacte négativement la collecte de sang. Il en profite pour lancer un appel aux volontaires afin de sauver des vies. Docteur Emmanuel Amissi est au micro de Grévis Salomou.
Le besoin reste toujours énorme par rapport aux dons de sang. Nous avons plus d'une dizaine de zones de santé. Dans ces zones de santé, il y a des structures qui transfusent. Il y a assez de malades qui ont besoin du sang. Jusque-là, on n'arrive pas à couvrir à 100% les besoins. La situation sécuritaire impacte négativement à ce qui concerne les dons de sang. Il y a des blessés qui arrivent et qui sont internés dans différents hôpitaux en place et qui ont besoin de sang. Il y a aussi les collectes mobiles de sang qui ne sont pas réalisées dans certaines zones de santé suite à l'insécurité. À toute la communauté de venir faire comme les autres. Aujourd'hui, ceux qui sont hospitalisés ne savaient pas qu'un jour ils seront malades. Ils se sont retrouvés sur les lits de l'hôpital. Donc, ce n'est pas une affaire d'une certaine catégorie déjà. C'est une affaire de nous tous. Le don de sang est un acte de charité, acte d'amour. Si quelqu'un fait son don de sang, c'est une vie qu'il veut sauver. C'est le plus beau cadeau que quelqu'un peut donner à son semblable humain.
Soulignons qu'au moins une quarantaine de personnes ont donné volontairement leur sang ce mercredi au cours d'une cérémonie organisée à cette fin à l'antenne de Butembo du centre de transfusion sanguine. La société civile du territoire de Niragongo, toujours au Nord Kivu, dit avoir enregistré plusieurs exactions perpétrées par les rebelles du M23 RDF contre les populations des groupements Kibumba et Burumba. Ces exactions remontent à l'annonce du retrait des troupes rebelles du M23 RDF en date du 24 décembre 2022 et le déploiement de la force régionale de l'EAC dans ce territoire. Les coordonnateurs de cette structure ajoutent que des tueries, assassinats, recrutement des jeunes dans la rébellion, l'installation d'une administration parallèle sont devenues monnaie courante dans la région. La société civile demande l'implication du gouvernement congolais pour mettre fin aux souffrances des populations innocentes. Bernardine Diambou nous en dit plus.
Le président de la société civile de Niragongo pense que, outre les exactions perpétrées contre les populations, plusieurs autres cas de violation des droits humains ont été enregistrés depuis presque 6 mois maintenant dans ces entités sous contrôle de l'ennemi. Mambo Kawaya.
Environ 50 tronçonneuses sont repérées pour extraire le bois, les planches et les restes fabriquent le charbon à destination du Rwanda. Extension des pâturages rwandais vers Kibumba où des vaches sans frontières sillonnent aisément à Kibumba et broutent les herbes dans les PNV en secteur Mikeno. Environ 30 personnes qui étaient parties à Kibumba pour constater l'état des lieux de leurs biens abandonnés et exploités illégalement par les populations rwandaises ont été amenées dans la brousse depuis le 1er juin de l'année en cours par les mouvements terroristes M20.
De ces faits, la société civile recommande au gouvernement congolais de tout mettre en œuvre afin de reconquérir urgentement les zones sous occupation des terroristes du M23 RDF pour réduire les calvaires des populations. À la population de dénoncer toute forme de violation des droits humains perpétrée par le M23 RDF pour permettre une bonne documentation. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
La prolifération des groupes armés dans la partie est du pays est liée notamment à l'accès au financement de ces forces négatives. Parmi les sources de financement, il faut citer l'exploitation illicite des ressources naturelles, les blanchiments d'argent et autres. C'est dans ce cadre que des représentants des services spécialisés dans la lutte contre la fraude minière ont été sensibilisés sur l'ampleur de cette problématique et la nécessité d'y mettre fin. Sensibilisation faite hier mardi à Bukavu par la section de lutte contre le financement des groupes armés du PDDRCS. Écoutez Fernando Nkana, chef de la section gouvernance minière et lutte contre le financement des groupes armés au PDRCS. Il est au micro de Cynthia Bachizina Bizana.
Plus on avançait, le conflit s'est pérennisé et les groupes armés s'est recréé. Et après, le paradigme a fait que, bon, on a compris que ces groupes armés survivent à cause d'un appui qu'ils obtiennent d'autres personnes et par rapport aussi aux activités qu'ils mènent. Ce sont des activités criminelles, mais des activités économiques. Et donc, nous avons changé la façon de concevoir et d'apprécier les choses. Et c'est pourquoi on a compris qu'il faut couper les liens. Couper définitivement les liens et nous allons établir la paix en République démocratique du Congo, plus précisément à l'Est. Parce que s'ils n'ont pas l'argent pour maintenir leurs troupes, s'ils n'ont pas les moyens pour acheter les munitions, ils ne vont pas survivre. S'ils savent qu'ils seront traqués dans tous les niveaux, ils vont arrêter. Les services spécialisés, ce sont eux qui ont la responsabilité. Et nous sommes là pour les accompagner et à les pousser pour voir comment on peut réussir cette mission. Parce que nous ne pouvons pas arrêter. Il faut que nous puissions associer l'auditorat ou le parquet général pour qu'on arrête tous ces criminels.
À Tanger, au nord du Maroc, l'Observatoire des médias pour la pêche durable en Afrique, OMPDA, a lancé ce mercredi, en partenariat avec la conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique, un séminaire-atelier axé sur la mer, les océans, la pêche et la biodiversité. Pendant 3 jours, les journalistes et communicateurs africains vont s'imprégner des conventions et accords internationaux se rapportant à la pêche au niveau continental et régional. Pour Abdelwaheb Benabou, peu de journalistes africains prennent part aux conférences internationales axées sur les questions des ressources halieutiques. Cela a une incidence sur la vulgarisation des conventions et accords réglementant les secteurs de la pêche et de l'aquaculture dans les pays africains. Il est dit au micro de Tati Mapoukou.
L'objectif principal de cet événement est de familiariser les membres de l'OMPDA avec les résultats et les implications des principales réunions internationales sur les ressources halieutiques qui ont eu lieu ces dernières années, notamment en 2022. De plus, il vise à valider un plan de communication afin de diffuser ces informations de manière cohérente et efficace. Ces rencontres internationales ont abordé des questions cruciales en rapport avec la gestion des ressources marines vivantes. Malheureusement, peu de professionnels africains de la communication ont pu couvrir ces événements et seuls quelques-uns ont eu accès à une documentation adéquate. En conséquence, peu de nos concitoyens sont informés des débats et des résultats de ces rencontres. Et même s'ils le sont, c'est généralement à travers des médias étrangers qui ne prennent pas suffisamment en compte nos spécificités et nos intérêts. Il est donc impératif que nous mettions en place des mesures pour améliorer cette situation.
Au sud Kivu, le bureau de la société civile exprime des inquiétudes quant à l'avancement des travaux du programme de développement des 145 territoires en province. Des inquiétudes contenues dans un rapport publié hier mardi à Bukavu à l'issue d'une descente sur terrain dans les territoires. Les travaux n'avancent pas et la société civile recommande l'implication des populations locales pour une bonne évolution des travaux. Emmanuel Elamejo Kabedi, reportage.
Le bureau de la société civile du Sud Kivu publie ce rapport après s'être rendu dans ce territoire de la province. Il en ressort que les travaux de ce programme du chef de l'État n'avancent pas comme prévu. Ce programme tant attendu pour contribuer à réduire les inégalités entre le milieu rural et le milieu urbain et la réduction de la pauvreté. Dans l'ensemble du territoire, rien n'est encore visible. Un malentendu opposerait la population locale au PNUD sur la délocalisation de certains ouvrages sur de nouveaux sites. Ici et là, la société civile locale dit se plaindre de ne pas être impliquée au déroulement des travaux. L'on déplore également la non-considération de la main-d'œuvre locale par les entreprises sélectionnées et qui ne maîtriseraient pas les milieux. Pour la société civile, le volet agricole avec la réhabilitation des routes de dessertes agricoles n'a pas encore démarré. Ainsi, la société civile recommande-t-elle une forte implication des communautés locales pour plus de visibilité de ce programme. Pour le PNUD de Sud Kivu, aucun changement ne doit intervenir dans le projet sans l'aval du ministère du Plan. Emmanuel Elamijo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Ouverture lundi dernier à Kalemi de la télé sur l'implication des professionnels des médias dans la mise en œuvre du plan provincial 1325 au Tanganyika. Ce plan émane de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, une résolution qui permet à la femme de participer dans les instances de prise de décision. Des journalistes de Kalemie prennent part à cet atelier de deux jours qui est organisé par l'Union congolaise de femmes de médias du Tanganyika et financé par ONU Femmes. On écoute Théophile Boulembe, l'un des orateurs au micro de Pone Munanga.
Il nous a été demandé que nous puissions renforcer les journalistes à ce qui concerne le plan provincial de la mise en œuvre de la résolution 1325 dans les Tanganyika, la stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre et les innovations à ce qui concerne le code de la famille révisé. Pour que vraiment la communauté de Tanganyika, à travers les canaux communicationnels, puisse connaître vraiment les nouveaux instruments qui cadrent avec la promotion des droits humains en général et de la femme en particulier. Premièrement, à ce qui concerne au niveau national, c'est la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre révisé. Et ici à Kalemie, le plan provincial de la mise en œuvre de la résolution 1325 à travers ces quatre piliers. La résolution 1325 permet à la femme, à la participation citoyenne dans les instances de prise de décision dans les sphères publiques et privées. Et ça permet aussi, dans le cadre de la vulgarisation des instruments juridiques, de protéger aussi les femmes contre les violences basées sur les genres, parce que les taux de prévalence, ce sont les femmes. Mais avec ce plan, il y a aussi la masculinité positive qu'on est en train de prôner, parce qu'il faut qu'il y ait vraiment l'engagement des hommes pour atténuer les cas de violences basées sur le genre.
Dans la province du Maniema, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, en collaboration avec le réseau des médias pour le développement REMED, organise à Kindu depuis lundi dernier un atelier de formation en faveur des membres de la Task Force Communication Provinciale du Maniema. Cette formation porte aussi les nouvelles notions de communication de développement et communication sociale pour le changement de comportement. Pendant 8 jours, 36 participants, dont des communicateurs des services étatiques et de la société civile, seront outillés sur les nouvelles approches et stratégies de la communication de développement avec l'objectif de renforcer l'engagement communautaire. Docteur Christian Sibouko, de la Direction nationale des soins de santé primaire, est l'un des facilitateurs de ces assises. Il explique au micro de Florence Kizalunga.
Il est question de renforcer les capacités de la Task Force Communication, donc la Task Force provinciale. À l'instar des autres provinces, cette Task Force a été renforcée il y a de cela plus de 5 ans. Et si nous revenons, c'est parce que il y a une grande évolution dans pratiquement les stratégies de communication que nous avions utilisées il y a de cela 5 ans. Cette fois-ci, nous venons juste pour la formation en communication pour le développement et la communication pour les changements sociaux et de comportement. Comme objectif, d'abord, c'est d'expliquer aux membres de la Task Force les concepts clés, la communication pour le développement et la communication sociale et de comportement. Le deuxième objectif, c'est en rapport avec l'utilisation de ces concepts dans le cadre de pratiques familiales essentielles et même dans les urgences, comme vous connaissez que la province actuellement connaît certains problèmes qui nécessitent à ce que les interventions se fassent en urgence. Et même ce concept est applicable par rapport à la demande des services.
La fondation Witanene de Willy procède au paiement des frais de participation à la session ordinaire de l'examen d'état en cours dans la province du Maniema. En sont bénéficiaires plusieurs centaines d'élèves finalistes du secondaire vulnérable de la ville de Kindu. Les coordonnateurs de cette fondation parlent du souci d'aider cette catégorie de personnes dépourvues de moyens pour leurs études. Une grande joie et satisfaction pour les élèves et même les responsables d'école qui appellent les autres notables à emboîter ce pas. Reportage de Florence Kizalunga.
Une enveloppe de 54 000 francs congolais remis pour chaque élève, c'est les frais exigés pour la participation à cette session ordinaire. Poli Beshabani, coordonnateur de cette structure, explique la catégorie des bénéficiaires.
Nous sommes en pleine opération des paiements de frais de participation à l'examen d'état au profit des finalistes vulnérables de la ville de Kindu. Par vulnérable, il faut entendre les personnes vivant avec handicap sous toutes leurs facettes, c'est-à-dire les handicapés moteurs, les aveugles, et les albinos, les pygmées et même les enfants souffrant de la morbidité.
Ces élèves, à travers leur chef d'établissement, ont salué ces gestes de la Fondation Witanene de Willy. Certains s'expriment.
Pour nous, d'ailleurs, c'est une surprise. On ne s'entendait pas, mais humain. Depuis que je suis ici, ça fait aujourd'hui 7 ans que je puisse voir quelqu'un de bonne volonté ou bien une fondation comme ça qui vienne vraiment subvenir aux besoins des élèves.
Pour ça, nous sommes infiniment reconnaissants avec cette fondation qui continue déjà d'œuvre à la longue pour l'avenir de notre province.
Malgré la fondation n'a pas tout terminé, mais c'est un pas pour aider ses enfants.
Signalons que cette opération se déroule dans les 3 communes de la ville de Kindu. Florence Kizalunga, Kindu, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au moins 303 morts. Le bilan de la secte de Paul Mackenzie au Kenya ne cesse de grimper. Hier mardi, 19 nouveaux corps ont été exhumés de la forêt de Sakaola, non loin de la ville côtière de Malindi. Au Nigeria, au moins 103 personnes sont mortes dans le naufrage d'un bateau lundi vers 3h du matin. La plupart des victimes, dont des enfants, rentraient d'un mariage dans le village d'Ekboti, dans l'est du Niger.
L'invité.
Notre invité est l'initiateur de l'ONG Plus de couleurs. Yann Mambo parle du festival Fièrement Ndundu, organisé à l'occasion de la célébration hier mardi de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. C'est dans un entretien avec Jocelyne Moussaou.
Yann Mambo, bonjour.
Bonjour Jocelyne Moussaou Kondé.
Vous êtes l'initiateur du festival Fièrement Ndundu, qui en est à sa 6e édition. Pourquoi ce festival?
Déjà, ce festival a été initié pour être une vitrine de l'élite albinos, mais en même temps un centre d'incubation pour le futur élite albinos de demain. Parce que il y a 10 ans, 15 ans, l'albinos n'était pas très motivé, ne prenait pas la place d'humain qui lui revenait dans la société. Et il était important pour nous de réveiller cet engouement-là, de montrer qu'en étant une personne vivant avec albinisme, on peut aussi être candidat non seulement au bonheur, mais aussi à l'excellence.
Qu'est-ce qui est prévu pour cette édition?
Pour cette édition qui est en 2 jours mais en 3 actes, il était important de pouvoir mettre en valeur l'image de la personne vivant avec albinisme pour redéfinir le mot Ndundu. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a 10-15 ans, vous appelez quelqu'un Ndundu, un albinos, vous l'appelez Ndundu, c'est la bagarre, hein, c'est vraiment la bagarre. Mais aujourd'hui, c'est le Ndundu lui-même qui est fier d'être appelé ainsi. Tout simplement parce que nous avons décidé de redéfinir ce mot qui autrefois semblait être péjoratif ou insultant, d'être aujourd'hui synonyme d'excellence, de lumière, de particularité, de détermination, de courage, d'espoir. Voilà un peu. Voilà pourquoi nous avons décidé de faire un shooting photo en mettant la personne vivant avec albinisme sous sa la plus belle robe. Un shooting photo exposé au grand public où tout le monde pouvait immortaliser des moments forts avec son albinos, son Ndundu coup de cœur. Le deuxième jour, pour le deuxième acte, c'était plus scientifique parce que nous avons tenu une conférence scientifique au centre Wallonie-Bruxelles pour justement expliquer ce que c'était que l'albinisme et montrer les difficultés, les vraies difficultés qu'encourait cette communauté, cette catégorie de personnes dans la société. Et le dernier acte, c'est justement pour honorer deux icônes de la communauté albinos et une autre icône qui n'est pas albinos mais qui a quand même participé à ce combat pour permettre le bien-être de la personne vivant avec albinisme. Il s'agit de Mwimba Texas, de Ilunga Police Belge et du docteur Kabasele. Pour les immortaliser, nous allons récompenser certaines personnes avec ces 3 prix, le prix docteur Kabasele lui, qui va récompenser des personnes comme Jocelyne Moussalou qui n'est pas albinos mais qui est très impliquée dans le combat, dans la cause pour le bien-être de cette catégorie de personnes. Le prix police belge qui justement est décerné aux personnes vivant avec albinisme qui sont dévouées à la cause et le prix Mwimba Texas lui qui est décerné à l'élite albinos. Voilà.
Et parmi les activités, il y a une formation prévue pour les femmes entrepreneurs vivant avec albinisme. Est-ce que vous pensez que cette condition peut constituer un frein pour cette catégorie de personnes?
Bien sûr, mais moi-même étant une personne vivant avec albinisme, ça n'a pas été facile pour moi pour me faire un chemin sur le plan professionnel. Et c'est très dur. Moi, Dieu peut-être m'a donné les nerfs pour supporter certaines choses, mais ça n'a pas été facile. Étant été directeur dans plusieurs sociétés, mais ça n'a pas été facile. Il y a des personnes qui disaient même que là, nous, nos dirigeants athées, ça va, il a fallu que je puisse être aussi rigoureux pour m'affirmer, mais ce n'est pas ma nature. Alors moi, personnellement, si je dois conseiller à mes compères de choisir une activité, je préférais que ça soit dans l'entrepreneuriat. Voilà pourquoi, dans le cadre de l'autonomisation de la personne vivant avec albinisme, nous avons eu un compromis avec la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, pour justement faire une formation avec une quarantaine de femmes vivant avec albinisme, pour justement faciliter cette autonomisation, parce qu'après la formation, il y aura une subvention pour certains projets.
Elles sont dans quel domaine particulièrement ?
C'est des domaines très diversifiés. Il y a celles du commerce, celles qui sont dans le mannequinat, d'autres qui sont dans l'esthétique, d'autres qui sont carrément dans l'art ou dans le domaine numérique. Donc ça, il y a plusieurs catégories.
Yann Mambo, merci.
Merci à vous.
C'était notre invité, l'initiateur de l'ONG Plus de couleurs, Yann Mambo, s'entretenait avec Jocelyne Moussaou. Fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.